Vous écoutez RTL.
7h47, Olivier Mazerolle, vous recevez donc le président du Modem, François Bayrou.
Bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Tout d'abord, concernant les migrants, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, propose que l'Europe dresse une liste de pays politiquement sûrs dont les ressortissants ne pourront en aucun cas prétendre à l'asile politique dans les pays européens. Vous êtes d'accord ?
Ce que Jean-Claude Juncker fait est bien orienté. Qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claude Juncker ? Un, il dit, les problèmes de migration, nous ne pouvons pas les résoudre chacun pour soi. C'est impossible parce que, comme vous savez, il y a des circulations partout dans le monde et partout en Europe, et un certain nombre de ceux-là viennent pour s'installer. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent aller ailleurs. La France est aussi un endroit où l'on passe et pas où on veut s'installer. Deuxièmement, la voie de l'immigration, c'est la demande de l'asile, en disant « je suis persécuté dans mon pays, menacé dans mon pays » et donc, au titre des règles internationales, il faut que vous acceptiez de m'accueillir et de m'accueillir en urgence. Et c'est cela que Jean-Claude Juncker vise, les demandeurs d'asile qui, en réalité, ne sont pas menacés.
– Viennent d'Europe centrale. Pour beaucoup d'entre eux,
économiquement, et dresser une liste des pays sûrs, ça veut dire qu'on ne pourra pas demander l'asile si l'on vient de ces pays-là.
C'est une bonne idée.
C'est en tout cas le moyen d'empêcher que les demandes d'asile explosent. Comme vous savez, en Allemagne cette année, 800 000 demandes d'asile, presque 1 million de personnes qui vont demander de l'asile, et nous en avons des centaines de milliers en France aussi, avec en France la difficulté d'un traitement des demandes d'asile qui demande des mois et des mois, des dizaines de mois, des années, quelquefois beaucoup plus.
Donc vous êtes
plus,
plutôt favorable.
Et donc je suis plutôt favorable à cette disposition.
Concernant le terrorisme et la lutte contre le terrorisme, est-ce que vous partagez l'indignation de ceux qui reprochent au ministre des Transports d'encourager les contrôles aléatoires de bagages dans les trains, même si ça doit entraîner des discriminations?
Bon, il y a eu une polémique hier sur ce sujet. Moi, je suis pour aider et soutenir les forces de l'ordre. Je suis pour que on écoute ce
même
qu'elles disent.
Même s'il peut y avoir du délit de faciès.
Disent. Non, mais le délit de faciès, tout le monde sait bien. Nos principes sont absolument opposés au fait qu'on repère quelqu'un sur son physique. Mais les forces de l'ordre ont des formations, elles ont l'habitude, et je suis plutôt pour qu'on les aide plutôt que qu'on les empêche de faire leur travail lorsqu'un danger est immense. Je trouve qu'il faut une solidarité avec ceux qui sont en première ligne, exposés au danger et qui essaient de nous protéger de ces risques.
La crise financière chinoise fait trembler les bourses du monde entier. François Hollande, interrogé à ce sujet hier, a dit qu'il était convaincu, lui, que l'économie mondiale était suffisamment solide pour encaisser le choc. Vous m'avez fait comprendre début de cette interview que vous ne partagez pas tout à fait cet optimisme.
C'est très simple. Il y avait un temps aussi où on disait que le nuage de Tchernobyl s'arrêterait à nos frontières. Or, c'est absolument impossible lorsque vous avez un ébranlement qui se crée dans une des zones de la planète qui est la plus importante pour l'économie, pour le commerce international, pour la concurrence internationale. Alors évidemment, il y a des conséquences partout ailleurs, comme on l'a entendu juste avant cette interview. Et donc, c'est évident pour moi que nous allons avoir en Europe, et spécialement en France, des conséquences de ce qui se passe en Chine. Et c'est l'idée un peu naïve que la croissance était là, que la croissance revenait, qu'elle viendrait de l'extérieur. C'est cette idée un peu naïve qui se trouve aujourd'hui mise à mal. Je crois qu'elle va l'être dans les mois qui viennent, avec au fond, pour moi, une idée simple. Si nous voulons nous en sortir, ça n'est pas sur les autres que nous devons compter, c'est sur nous-mêmes. C'est sur les changements que nous apporterons chez nous, c'est sur les décisions que nous prendrons chez nous pour éliminer les handicaps que nous avons et qui nous empêchent d'être concurrentiel. C'est chez nous que ça se passe et ça ne viendra pas d'ailleurs.
Oui, mais Manuel Valls, d'une certaine façon, vous a déjà presque répondu par anticipation. Il fait une tribune ce matin dans Les Échos dans laquelle il dit qu'il faut tout faire pour accélérer la croissance en France, obtenir au moins 1,5% de croissance, et il souligne qu'il veut maintenir le soutien aux entreprises et assouplir les règles du marché du travail. Donc la réforme, ce que vous dites, comptez
mais
sur nous-mêmes.
Pourquoi, depuis 3 ans, ne l'ont-ils pas fait ? Pourquoi, chaque fois qu'il s'est agi d'apporter un geste de soutien aux entreprises, est-on allé inventer des usines à gaz, comme on dit, pour ces machines administratives tellement compliquées, sur lesquelles personne ne comprend rien, surtout pas les PME et les artisans, qui sont, eux, dans une situation particulière. Quand vous êtes une grosse entreprise avec des services juridiques très puissants, une administration de votre entreprise, à ce moment-là, vous y arrivez. Mais si vous êtes un artisan, si vous êtes une petite entreprise ou une moyenne entreprise, vous avez beaucoup plus de difficultés. On n'a pas arrêté, au lieu de simplifier, de complexifier.
Mais avec le pacte de responsabilité, le gouvernement tient le cap.
Oui, enfin, dans les mots et dans les intentions, dans les réalités, moi je ne le vois pas venir. Regardez, vous avez interviewé 100 fois à vos micros, depuis plusieurs années, des gens qui vous disaient « nous allons simplifier ». Vous trouvez qu'il y a eu une simplification, vous ? Comme vous, comme Mazerolle, individu, hein, famille, vous trouvez qu'il y a eu une simplification ? Vous trouvez que le monde est plus facile, l'administration plus simple, plus accessible, la rapidité des décisions plus grande ?
C'est une vieille histoire, Courteline, ben, déjà, par les déroncuirs.
C'est une si vieille histoire que nous en sommes là où nous en sommes. C'est parce que c'est une vieille histoire et que nous sommes incapables de changer, de faire bouger nos habitudes, sans doute parce qu'il y a des conservatismes ou simplement des habitudes prises. Et tout cela fait que les Français, et je suis un peu dans ce cas-là, chaque fois que les dirigeants font des déclarations, la main sur le cœur, en disant « vous allez voir maintenant, nous allons changer », on a beaucoup de scepticisme et de mal à y croire.
Vous ne croyez pas donc qu'il y aura de baisse d'impôts, comme le promet François Hollande et Emmanuel Valls encore ce matin ?
Alors, l'affirmation du président de la République, selon laquelle il y aurait des baisses d'impôts, en effet, a suscité un haussement d'épaules généralisé. Pourquoi ? Bah, c'est très simple. Vous baissez les impôts en faisant les économies où ou en prenant l'argent où ? N'est-ce pas ? Les baisses d'impôts, c'est des dépenses supplémentaires ou en tout cas des recettes moindres. Donc vous avez un déséquilibre qui se crée. Vous pouvez imaginer des baisses d'impôts, et c'est ce qui probablement aurait dû être pensé depuis longtemps, dès l'instant que vous avez fait des économies. Or, le déficit de la France, évidemment, il ne baisse pas, ou il baisse seulement à la marge. On est dans une situation où les promesses de cet ordre, que ce soit les promesses de dépenses ou les promesses de baisse d'impôts, ce sont des promesses qui seront financées par l'emprunt. Or, nous sommes déjà écrasés sous la dette. Comme vous savez, nous allons atteindre 2100 milliards d'euros de dette pour la France. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un abus de confiance, comme toujours, une affirmation qui ne sera pas suivie d'effet et qui sera payé par tous ceux qui nous écoutent.
En deux mots, vous avez lu le livre d'Alain Juppé, votre poulain,
non, je ne l'ai pas lu encore.
Sur l'école ?
Non, je ne l'ai pas lu, il ne sort que demain, donc je ne l'ai pas lu. Mais si vous voulez mon avis sur
deux
l'école,
mots, hein.
D'après ce que j'ai lu des interviews, des articles ici ou là, moi j'ai une vision beaucoup plus inquiète de la situation de l'éducation nationale. Et j'ai en tout cas une certitude. Moi qui suis pas pour démolir chaque fois ce que les gouvernements précédents ont fait, mais du point de vue de l'éducation nationale, l'inspiration des réformes, entre guillemets, des décisions qui ont été prises dans l'éducation nationale va à l'encontre de ce que je crois nécessaire pour le pays. Et donc j'ai une volonté de rupture franche avec ce qui s'est passé depuis 3 ans, ou en tout cas ces derniers mois, à l'éducation nationale.
Eh bien, on vous fera venir pour nous expliquer tout ça. Merci,
j'en serai ravi.
François Bayrou.
Sur la situation économique, François Bayrou qui vient de nous dire, si nous devons nous en sortir, c'est sur nous que nous devons compter, pas sur les autres ou sur l'extérieur. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu, comme chaque jour, à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.